Une première réunion plénière avec les délégations politiques, elle s'est ouverte ce matin au Haut-Commissariat autour du ministre des Outre-mer. Des commerçants plutôt satisfaits, le long pont du 1er mai attire les clients dans les magasins du centre-ville. La clôture demain de l'exercice Croix du Sud, c'est aujourd'hui à Wallis et Futuna que les cérémonies se déroulent. On retrouvera sur place notre envoyé spécial. Tension à gauche lors du défilé du 1er mai à Paris. Jean-Luc Mélenchon a prononcé un discours très engagé et un stand du Parti Socialiste a été pris pour cible. Un échange gagnant-gagnant. Les États-Unis et l'Ukraine saluent l'accord de coopération qu'ils ont signé hier. Et puis en sport, nous avons fait le point avec le président du CTOS sur la délégation calédonienne qui part au mini-jeu de Palau. Christophe Dabin était notre invité ce matin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer ces titres, un coup d'œil sur le magazine Transparence que vous retrouverez dès la fin de cette édition. Elisabeth Noir, bonjour.
Bonjour.
Votre invité sera aujourd'hui Samuel Népéoun.
Oui, membre du gouvernement qui sera l'invité du magazine Transparence. Il est en charge notamment des affaires maritimes, de la recherche et de la valorisation des ressources naturelles, mais aussi de la formation professionnelle. Et sur tous ces secteurs, il a multiplié les annonces ces dernières semaines. Alors nous l'interrogerons bien sûr sur les projets qu'il développe concernant ces différents dossiers. On se retrouve en compagnie de Samuel Népéoun d'ici une demi-heure, juste après votre journal.
Et l'autre rendez-vous du vendredi, c'est le Club Politique Radio Rythme Bleu à 16h45.
Et au sommaire, vous vous en doutez, la visite de Manuel Valls, son programme et ses différentes déclarations avec l'interrogation sur la possibilité ou non de trouver un accord d'ici le 8 mai. Et puis nous parlerons aussi de la conférence sociale et fiscale organisée par le gouvernement et également du moratoire de 50 ans de l'exploitation des fonds marins qui a été adopté par le Congrès. Voilà pour le menu de ce club politique qui débute cet après-midi à 16h45.
La politique justement et toutes les délégations sont réunies depuis ce matin au Haut-Commissariat autour du ministre des Outre-mer Manuel Valls et du conseiller du Premier ministre Éric Thiers. C'est la première réunion plénière depuis le retour du ministre en Calédonie. Manuel Valls ne leur a toujours pas remis le nouveau projet d'accord politique. Cette réunion est prévue pour durer toute la journée, mais les débats sont pour l'instant suspendus. Le ministre des Outre-mer s'entretient en bilatéral avec les délégations indépendantistes. Ce week-end, Manuel Valls doit notamment assister à l'ouverture de la fête du surf et de la crevette à Boulou-Paris demain. Et dimanche, il se rendra à Marais. Il se recueillera sur la tombe de Yewene Yewene, assassiné le 4 mai 1989, en même temps que Jean-Marie Tjibaou, et se rendra ensuite sur le site de la fête de l'avocat. On ne connaît pas la suite de son programme. Il était prévu de nouvelles séquences de discussion lundi, mardi et mercredi, et peut-être hors Nouméa, mais aucune précision n'a été donnée pour l'instant. Notez que Manuel Valls sera présent dans la soirée au cocktail de départ du haut-commissaire Louis Lefranc, qui va quitter la Nouvelle-Calédonie ce soir après plus de 2 ans dans ses fonctions.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Selon vous, le ministre des Outre-mer est-il trop alarmiste quand il déclare que c'est un accord ou le chaos? Si vous le trouvez trop alarmiste, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Nous sommes donc au cœur d'un long week-end. Nombreux sont ceux qui font le pont après le 1er mai. Un long week-end qui semble sourire à certains commerçants. En ce premier pont du mois de mai, qui en comptera 3 au total, certains redoutaient un manque d'affluence dans les magasins. Ça ne semble pas être le cas dans le centre-ville de Nouméa, Léana Colombo.
Alors c'est un constat à nuancer, tant l'affluence varie en fonction des magasins dans une même zone. Mais ce matin, la plupart des commerçants de la rue de l'Allemand en centre-ville de Nouméa semblaient satisfaits du taux de fréquentation, contrairement à celui de la semaine dernière.
Je trouve que ça va, il y a un peu de monde là. Le monde commence à revenir. Là, ce matin, on a du passage par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, oui, il n'y a eu personne. Ça dépend.
En principe, c'est des jours où on a un petit peu des appréhensions parce qu'on estime que sur plusieurs jours où il y a du pont, des longs week-ends, on va faire aller pour un jour, on fera à peine la moitié du chiffre qu'on est censé faire habituellement. Il y a beaucoup moins de passages, mais ça reste aléatoire. Aujourd'hui, par exemple, depuis ce matin, on a pas mal de clients qui rentrent en magasin. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. La semaine dernière, c'était très calme, on n'a eu personne, vraiment quasiment personne.
Et aujourd'hui, on a de la fréquentation, ce matin, on a du monde par rapport au début de la semaine, comme on était en fin du mois aussi. Et du coup, là, mais depuis ce matin, on est là, on encaisse les clients, ce n'est pas des temps morts.
Si ce vendredi n'est pas un jour chômé, beaucoup de Calédoniens sont tout de même en congé. À l'image de John, il a décidé de faire les magasins ce matin accompagné de sa femme et de ses 2 enfants.
Je fais un peu les magasins parce que c'est mon jour de repos et je profite que c'est férié aussi, mes enfants ne sont pas à l'école. Je profite un peu que tout le monde soit libre pour balader en ville et regarder les magasins. Heureusement que c'est tombé au bon moment aussi, on a un peu de pièces pour faire le tour des magasins et prendre ce que les enfants ils veulent prendre un peu aussi, leur faire plaisir, quoi. Ils pleurent pour des ballons, des bonbons, puis après on va les emmener au McDo.
D'autres longs week-ends suivront durant tout ce mois de mai. Le prochain tombe déjà la semaine suivante pour le 8 mai. Et si pour ce premier pont, la paye venait de tomber, les commerçants redoutent bel et bien le dernier pont de ce mois qui intervient le 29 mai pour l'Ascension.
Après 12 jours à Wallis et Futuna, l'exercice Croix du Sud 2025 touche à sa fin. Avant la cérémonie de clôture qui se déroulera demain sur la place des Cocotiers à Nouméa, c'est le VIP Day au Fénois. On retrouve sur place notre envoyé spécial, Léo Fichou.
Oui, l'ensemble ou presque des militaires engagés sur l'exercice, soit près de 2000 soldats de 17 nations différentes, États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, Japon, Australie notamment, sont rassemblés aujourd'hui à Wallis pour différentes cérémonies. Une journée qui clôture la 11e édition de cet exercice créé en 2002. Un exercice pour entretenir et approfondir la coopération dans le cadre d'une opération internationale des secours aux populations sinistrées qui est, je le rappelle, planifiée et conduite par les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Sur place, on retrouve donc des représentants militaires comme le général Latil, commandant des FANC, mais aussi des représentants institutionnels de chaque pays engagés dans l'exercice Croix du Sud. En ce qui concerne la France, la Nouvelle-Calédonie, Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique, est présente, tout comme de nombreux ambassadeurs et ambassadrices, celui d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Vanuatu et des îles Salomon, mais aussi du Samoa et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. La consule générale d'Australie en Nouvelle-Calédonie et la consule du Japon ont également fait le déplacement ce vendredi. Et comme je le disais, plusieurs rendez-vous sont programmés ce vendredi, à la préfecture d'abord avec les honneurs militaires qui ont été rendus il y a quelques minutes, puis dès midi, dans quelques minutes, donc, va se dérouler la cérémonie de clôture ici au Fénois, avec l'ensemble des drapeaux qui flotteront sur la place Sagato-Souané. Après ça, le général Latine ainsi que les représentants institutionnels se rendront au palais du roi Lavellois avec une visite également de la cathédrale, puis un passage par la résidence du préfet pour un temps d'échange avec les troupes déployées, des troupes qui ont été déployés à Wallis et Futuna pendant presque 2 semaines. Le général d'armée Burkhard, chef d'état-major des armées qui devait être sur place, lui a dû annuler son voyage à la dernière minute. Depuis Wallis et Futuna, Léo Fichou, RRB.
Merci Léo. Et notez qu'à Nouméa, la cérémonie de clôture de cet exercice Croix du Sud 2025 se déroulera demain à 17h sur la place des Cocotiers. Et avant cela, l'ensemble des forces déployées dans cet exercice sera rassemblée sur la base Chalex, mais aussi à Ploum. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Et attention, cet après-midi à 14h que va avoir lieu le tirage au sort de notre jeu Chance, avec un lot magnifique à gagner, Thierry.
Oui, c'est un ensemble, c'est ça, c'est un ensemble pour repasser des douces nuits. Donc ça comprend un sommier avec matelas en 2 mètres par 160 avec ses deux oreillers, un drap housse plus un drap plat et les têtes d'oreiller pour jouer. Donc vous aurez vos 40-20, vous avez chance au 40-20. Moïrani, rappelons-le, c'est le spécialiste de la literie orthopédique en Nouvelle-Calédonie. Le choix, la qualité au meilleur prix toute l'année.
Voilà, vous envoyez chance au 40-20 autant de fois que vous le voulez jusqu'à 14h qui sera l'heure du tirage au sort et on vous souhaite évidemment bonne chance. L'actualité dans la région et ses veilles de vote en Australie. Demain, 18 millions d'électeurs sur les 27 millions d'habitants de l'île-continent vont choisir leurs dirigeants pour les 3 ans à venir. Ils doivent départager les travaillistes, emmenés par le Premier ministre sortant, Anthony Albanese, et la coalition libérale nationale conduite par le chef de l'opposition, Peter Dutton. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Un peu plus de 1100 candidats, représentant une trentaine de tendances plutôt variées, dont le parti des chasseurs, pêcheur et agriculteur, et celui qui s'est donné pour mission de sauver la planète, vont briguer les 150 sièges à pourvoir dans la Chambre basse. Selon certaines estimations, près de 6 millions d'électeurs ont déjà voté par anticipation, tandis que d'autres l'ont fait par voie postale. Tous les derniers sondages semblent confirmer la tendance selon laquelle la gauche est très bien placée pour triompher. Reste à savoir si elle remportera une majorité de sièges au Parlement, ce qui lui donnera alors les coulées franches pour y imposer sa politique. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et on rappellera que le vote est obligatoire en Australie. À 11h40, une première pause. Dans un instant, on voit ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde. En métropole, l'actualité, c'est évidemment les manifestations autour du 1er mai.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Piscine Locale, c'est le spot pour votre piscine. L'équipement, matériel de filtration et de traitement, accessoires de nettoyage, produits chimiques et analyses. Piscine Locale propose également la construction et la rénovation de votre piscine. Venez nous retrouver au 87 route du Port des Pointes, Faubourg Blanchot, le magasin des quartiers sud, au 31 85 68.
5 francs de remise sur le carburant grâce à votre carte senior et vos points fidélité x3.
Avec vos stations Shell et Pacifique, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 5 francs par litre tous les jours grâce à votre carte senior. Et encore mieux, avec votre carte fidélité Shell et Pacifique, faites x3 sur vos points en plus de la remise. Les stations Shell et Pacifique, toujours à vos côtés pour économiser.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité en métropole où des incidents ont émaillé la manifestation parisienne du 1er mai. Avant même que le défilé se mette en marche, plusieurs leaders politiques ont pris la parole et parmi eux Jean-Luc Mélenchon qui s'est d'abord défendu de toute récupération politique après l'assassinat d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard.
À ceux qui viennent nous dire que c'est de la récupération communautariste que d'affirmer notre compassion, notre identification à la victime de l'islamophobie. Oui, j'ai dit l'islamophobie. Pourquoi ? Parce qu'elle va au bout de ce qu'est le racisme. Elle ne voit plus une personne humaine. Elle voit une couleur. Elle voit une religion. Elle oublie que tout cela n'a lieu qu'avec des êtres humains. C'est pourquoi le 1er mai est pour nous un rassemblement antiraciste. Et les racistes de toutes les périodes, de toutes les époques, l'ont toujours su.
Le leader de la France insoumise a ensuite apporté son soutien à Gaza, devenu, a-t-il dit, un camp de concentration. Juste après son discours, une cinquantaine d'individus s'en sont pris au stand du Parti socialiste, accusés d'être sionistes et pro-juifs. Le reportage d'Arthur Delaborde pour Europe 1.
Les socialistes pas les bienvenus dans le défilé du 1er mai. Une cinquantaine d'individus cagoulés saccagent le stand parisien du PS. Traîtres, sionistes ou encore complices du génocide, voici quelques-uns des qualificatifs lancés à l'encontre des socialistes. Le patron du parti, Olivier Faure, a immédiatement annoncé des dépôts de plaintes. Parmi les élus malmenés, Jérôme Guedge, encerclé par un groupe de personnes vêtues de noir, le député PS de l'Essonne a été contraint de s'éloigner de la tête du cortège sous les huées.
Non, on ne quitte jamais la manif du 1er mai parce qu'il y a les ennemis des travailleurs qui sont là. C'est les gens qui détournent et dénaturent un mouvement social.
4 jours plus tôt, Jérôme Guedge avait déjà été insulté et violemment pris à partie avant d'être exfiltré du rassemblement dit contre l'islamophobie à Paris.
Une situation qui ne risque pas d'apaiser les tensions entre le Parti socialiste et la France insoumise, qui n'a pas réagi à cette agression. En revanche, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dénoncé une attaque lamentable. Et puis notez que des vitrines de magasins ont été cassées, il y a eu de nombreuses dégradations en marge du cortège. 72 personnes ont été interpellées, 28 d'entre elles ont été placées en garde à vue, 19 policiers et gendarmes ont été blessés. Le Rassemblement national avait lui choisi Narbonne pour célébrer le 1er mai. 5000 personnes ont salué les discours de Jordan Bardella, puis celui de Marine Le Pen. La chef de file des députés Rassemblement National a parlé du travail et des difficultés de l'emploi en faisant le lien avec l'immigration.
Lorsqu'un État mal gouverné fait le choix de laisser venir chaque année des centaines de milliers d'immigrés peu qualifiés, dont une partie importante deviendront le lendemain des travailleurs clandestins sous-payés ou des chômeurs, ce ne sont pas non plus là aussi les salariés qui sont les seules victimes de cette pression à la baisse sur les salaires, ce sont aussi les entreprises. Enfermés dans le cercle vicieux de la course au bas salaire qui les empêchera demain de trouver de nouvelles recrues et puis elles viendront alors grossir les rangs des secteurs en tension. Et puis ce sont surtout les contribuables, au passage, auxquels on laissera le soin bien sûr de payer à fond perdu la charge budgétaire que représentent par leur faible taux d'activité ces centaines de milliers de personnes arrivant chaque année et qu'il faudra loger, soigner, former, etc., etc.
Marine Le Pen a également parlé de son cas particulier avec la menace d'inéligibilité pour la prochaine présidentielle. Elle a appelé les militants à se mobiliser.
Aux législatives de 2024, ils vous ont volé la victoire. Aujourd'hui, ils veulent vous voler celle de 2027. Mais ils n'y arriveront pas. Pour cela, j'ai besoin de vous maintenant. Pas a quand même une chose qu'il semble ignorer. C'est qu'une élection nous sépare de 2027. Dans un an, en 2026, ce sont les élections municipales. Ce sont elles qui vous donneront l'occasion de vous lever contre leur entreprise de confiscation de la démocratie pour la reprendre en main au plus près de chez vous. Rien ne les effraie plus, écoutez-moi bien, que le fait que vous, peuple de France, fassiez de la politique, car notre peuple a ceci de particulier qu'il a souvent su dans son histoire reprendre son destin en main lorsqu'on tentait de le lui confisquer. Je vous appelle à le faire dès maintenant.
Marine Le Pen devant les militants Rassemblement National réunit donc à Narbonne pour le 1er mai. François Bayrou a lui poursuivi ses consultations sur l'introduction de la proportionnelle aux élections législatives. Il a reçu la nuit dernière pour nous le patron des députés Renaissance, Gabriel Attal, alors que la question divise au sein même du camp présidentiel. L'actualité à l'étranger, toujours marquée par le dossier ukrainien et par la signature d'un accord économique entre les États-Unis et l'Ukraine hier. Un accord gagnant-gagnant, soulignent les deux parties. Mais que contient-il exactement, Wilfried de Villers?
Cet accord, il comprend déjà un accès particulier, il donne un accès particulier aux terres rares dont l'Ukraine détiendrait 5% des ressources mondiales. Ces minerais essentiels dans le domaine de la haute technologie, et l'accord concerne plus largement les minerais et les hydrocarbures. L'Ukraine possède notamment l'une des plus importantes réserves de lithium d'Europe, mais encore non exploitées. Des ressources convoitées par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche et considérées par le président américain comme une contrepartie ukrainienne à l'aide militaire et économique fournie par les États-Unis depuis le début de la guerre. Mais attention, cet accord porte uniquement sur les projets à venir, pas sur les exploitations déjà en cours, ce qui rend pour l'instant les profits potentiels très incertains. Quant à ceux qui gagnent Kiev, eh bien, ce nouveau partenariat prévoit la mise en place d'un fonds d'investissement dédié à la reconstruction de l'Ukraine, dont les bénéfices seront réinvestis dans le pays. L'Ukraine qui ne versera pas non plus de réparations financières aux États-Unis, comme le réclamait un temps Donald Trump. C'était même l'un des points clés des longues négociations entre les deux pays. Et puis avec cet accord, Kiev espère inscrire dans le marbre sa relation avec les États-Unis, mise à rude épreuve par le président américain ces derniers mois.
Des remous au sein de l'administration Trump. Le conseiller à la sécurité de Donald Trump, Mike Vals, contraint de quitter son poste. Il est sur la sellette depuis qu'un journaliste a réussi à se procurer un plan de frappe américaine contre les Houthis dans le Golfe via une boucle messagerie censée être ultra confidentielle. Mike Vals a été nommé ambassadeur des USA à l'ONU. Et puis toujours à l'étranger, notez que les violents incendies qui ont menacé un temps Jérusalem sont désormais maîtrisés, mais une enquête est en cours car certains départs de feu pourraient être d'origine criminelle, voire terroriste. À 11h48, la dernière pause de ce journal, on se retrouve pour évoquer l'actualité sportive dans un instant.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Bodin.
Ah ouais, on va commencer par parler de l'actualité sportive en Nouvelle-Calédonie parce que le CTOS prépare les mini-jeux à Palao et il doit faire des choix difficiles en raison des contraintes budgétaires, Nicolas Legrand.
Oui, les mini-jeux servent évidemment de préparation pour les Jeux dans 2 ans à Tahiti, l'occasion de se frotter à la concurrence régionale. Malheureusement, cette année, les Lugues ont dû faire des choix difficiles car c'est une délégation extrêmement réduite qui partira du 29 juin au 9 juillet prochain. Seulement 6 disciplines contre 9 en 2022 aux îles Mariannes du Nord. L'athlétisme, la natation, le triathlon, le tennis de table, le volley indoor, le beach volley. On va parler aussi d'haltérophilie. Le président du CTOS, Christophe Dabin, était notre invité à 7h30 ce matin pour commenter ces arbitrages.
Ça a été extrêmement difficile. C'était quelque chose qu'on s'attendait au regard de la situation financière de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie nous a attribué une subvention de 30 millions, donc automatiquement il a fallu qu'on gère. Et ça nous a amené automatiquement à baisser le nombre de disciplines, à baisser dans chacune discipline le nombre d'athlètes. On va partir entre 30 et 32 athlètes. athlètes et qui seront accompagnés au grand maximum d'une dizaine d'accompagnants. À titre de comparaison, hein, Tahiti va à ses mini-jeux. Ils ont un budget, eux, de 110 millions. Ils viennent avec 120 athlètes parce que eux, ils ont l'objectif de Tahiti. C'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui. On a besoin, pour préparer notre équipe de 2027, d'avoir des crédits de préparation. Donc, normalement, les crédits de préparation sont sur les deux années qui précèdent les Jeux. Pour l'instant, rien prévu de cette année. Mais on a aussi expliqué à nos disciplines aujourd'hui que la préparation, elle devait se faire et que même si on n'avait pas automatiquement de déplacement, ils devaient eux-mêmes se donner les meilleurs moyens pour se préparer en interne.
Et c'est donc une équipe Kagou moins expérimentée que par le passé qui se présentera sur ces mini-jeux, mais avec tout de même des chances de médaille.
Pour ces mini-jeux, on a eu de la part du comité organisateur des conditions assez particulières où l'accent avait été mis pour les jeunes. Par exemple, pour le triathlon, on avait l'obligation d'avoir un jeune de moins de 19 ans, et même sur le volleyball, où on devait avoir dans l'équipe 7 jeunes de moins de 19 ans. Dans cette délégation qui part, c'est une équipe qui est très jeune, et donc on a très peu d'athlètes qui ont déjà fait les Jeux par le passé. En athlétisme, on a pour la première fois Natalia Prado qui va faire partie de la délégation. On peut, je pense, vraiment compter sur elle. En tennis de table, on a Jérôme Morisseau qui avait fait les Jeux de Salomon. En triathlon, nous allons avoir toujours Mathieu Salamacha qui est donc, va être, je veux dire, le capitaine de cette équipe. En haltérophilie, c'est Sylvain Duclos donc, qui est aujourd'hui notre meilleur haltérophile, qui a remporté des médailles à Salomon et à Saipan avant. Donc là aussi, je pense qu'on aura des capacités de médailles dans ces disciplines.
Et pour le président du CTOS, Christophe Dabin, même en période de restrictions budgétaires, il est important de faire rayonner la Nouvelle-Calédonie à travers le sport.
Le sport est un moyen véritablement de cohésion sociale. On a ouvert il y a 15 jours, 3 semaines, une salle directement sur Dimbéa qui est dans un quartier. Pour nous, c'est véritablement de faire que le sport soit le moyen de réunir les gens. Et je crois que les Jeux aujourd'hui, au-delà de l'aspect que ça reste une idée de performance derrière, ben le sport, c'est avant tout un moyen d'unifier, de vivre ensemble, de montrer ce que c'est que la Nouvelle-Calédonie. Et que la Nouvelle-Calédonie, avec tous ces athlètes qui vont partir, montre aussi une image autre que celle qu'on a connue ces derniers mois.
Donc c'est un déplacement qui reste important pour vous, les Jeux de Palau?
Très, très important. Et je veux dire, je crois que la Nouvelle-Calédonie se doit de montrer que le sport est toujours vivant, que nous avons du potentiel et que surtout, toujours ne pas oublier ce qui va se passer après les Jeux de Tahiti 2027.
Le CTOS qui doit maintenant caler les derniers préparatifs et notamment trouver des places sur les vols commerciaux pour les athlètes. La prochaine Assemblée Générale aura lieu le mardi 13 mai pour préparer ces mini-jeux.
Le sport sur la scène nationale et internationale avec du football. On jouait en effet ce matin les demi-finales aller de Ligue Europa et de Ligue Conférence. On se rapproche d'une finale a priori 100% anglaise.
Oui, en ce qui concerne la Ligue Europa, Tottenham n'a pas tremblé sur sa pelouse face à la surprise de ce dernier carré, Bodo Glimt. Une victoire 3 buts à 1. Les Spurs qui ont largement dominé les débats et ont inscrit 3 buts assez tranquillement avant de lever le pied. Bodo Glimt a saisi l'occasion en inscrivant un but à la 83e minute qui laisse un petit espoir. De son côté, Manchester United, tombeur de Lyon au tour précédent, a aussi pris un très gros net avantage sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Une victoire des Anglais 3-0. Match retour dans une semaine, ce sera le vendredi 9 mai au matin pour nous. Et puis en Ligue Europa Conférence, maintenant autre club anglais, Chelsea a fait respecter la hiérarchie. Il s'impose très logiquement et largement à Stockholm, en Suède, face au club de Djurgårdens 4 buts à 1. Et le Betis Séville s'est imposé 2 buts à 1. C'était à domicile face à la Fiorentina. Le Betis qui ira à Florence avec un petit but d'avance sur la Viola et qui peut nourrir toutefois quelques regrets après plusieurs occasions cachées et notamment une balle de 3-0. Tout reste donc à faire la semaine prochaine.
En cyclisme, un Français a endossé le maillot jaune sur le Tour de Romandie.
Oui, Alex Baudin est le nouveau leader du classement général. Il a terminé deuxième de la deuxième étape remportée par le coureur italien Lorenzo Fortunato de l'équipe Astana qui s'est échappé d'un groupe de 5 coureurs juste avant la flamme rouge du dernier kilomètre. Le Français Alex Baudin domine le classement général mais il était quelque peu déçu à l'arrivée puisqu'il avait coché l'étape du jour dans son calendrier.
Ouais, je vous avoue que le maillot de leader, pour l'instant, je m'en fous un petit peu, sans manquer de respect à la course, hein, mais là je voulais vraiment gagner. J'ai calqué mon sprint sur Van Etvelt et c'est regardé et bah, il a bien joué, le vainqueur a bien joué. J'avais ma stratégie en tête et je l'ai tenue et ça n'a pas marché, donc je suis vraiment déçu, ouais, de passer à côté de ma première victoire en World Tour.
Et prochaine étape autour du Tour de Romandie, ce sera des boucles au niveau de la petite commune de Cossonay entre le lac Léman et la vallée de Joux. 183 km attendent le peloton la nuit prochaine.
Et on termine en prenant la direction de Madrid pour le tennis.
Oui, Casper Ruud a sorti Daniil Medvedev en 2-7 lors des quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, 6-3, 7-5. On retiendra également les victoires de l'Argentin Francisco Cerundolo, mais aussi du Britannique Jacques Draper, qui va d'ailleurs entrer dans le top 5 du classement ATP lundi prochain. Ce sera son meilleur classement de son début de carrière. On signalera enfin que Lorenzo Musetti s'est lui aussi qualifié pour le dernier carré. Les affiches des demi, Cerundolo face à Ruud et Draper contre Musetti. Et puis chez les femmes, une surprise, la numéro 2 mondiale Iga Swiatek, tenante du titre, a encaissé une très lourde défaite, 6-1, 6-1 face à Coco Gauff en demi-finale à Madrid. Un revers qui peut inquiéter tout de même à 3 semaines de Roland-Garros. Et puis Arina Sabalenka a battu Elina Svitolina 6-3, 7-5. La finale opposera donc Sabalenka à Coco Gauff.